Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en février 2024 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Lana et je suis accompagnée de Drew. Bonjour Drew.
Bonjour Lana.
Nous avons la chance et le plaisir d'accueillir aujourd'hui Delphine Brennan, chef de projet chez Libellude. Bonjour Delphine.
Bonjour.
Ça va ?
Ça va.
Alors on va parler de toi dans une petite interview, tu vas nous présenter qui tu es. Et on va commencer tout de suite par un petit fil rouge, c'est une liste de questions qu'on pose à tous nos invités.
Et comme nous sommes joueurs, chers auditeurs, les réponses que vous allez entendre ne vont peut-être pas avec les questions. On s'est peut-être amusé à mélanger tout ça. Donc essayez de retrouver quelle réponse va avec quelle question et dites-le nous dans le billet de l'émission.
Quel est ton jeu, Madeleine de Proust ?
Je peux dire le Munchkin, mais en vrai je l'ai récupéré parce qu'on me l'a... quelqu'un allait le jeter et que je voulais pas qu'il soit jeté, donc on va dire Munchkin.
Très bien.
Quel est ton genre de jeu préféré ?
Alors, je sais pas si c'est un genre, je dirais les jeux où c'est soit... j'aime beaucoup les jeux coop, soit les jeux où on peut se... que le meilleur gagne. J'aime pas spécialement quand on doit être dans de l'interaction négative, juste avec les mêmes éléments, qui va réussir à le faire ça le mieux, et le deck building aussi. J'aime beaucoup les deck building.
Et du coup, dans ce genre, quel est ton jeu préféré ?
Je dirais Margot l'escargot. C'est vraiment un jeu pour les tout petits, on lance le dé, il faut avancer sur la piste. Mais en fait sur la piste, les cases étaient représentées par des billes de couleurs. Et on avançait avec son escargot qui avait une coquille transparente et les billes rentraient dans la coquille. Et du coup c'était hyper visuel de voir petit à petit son escargot qui se remplit. Ouais. C'était tout bête mais je le cherche désespérément parce que le nôtre a pas survécu à un certain nombre d'années d'utilisation.
On fait un appel aux auditeurs donc. Peux-tu citer un jeu qui se trouve dans ta ludothèque dont tu as honte ?
Pas tant que ça. J'ai tendance à virer les jeux au fur et à mesure si vraiment ils sont plus joués et à ne pas étendre ma ludothèque à l'infini. Just One. Pour le coup, là, c'était facile.
Tu pars pour 3 semaines et tu ne peux prendre qu'un seul jeu. Lequel ?
Ayla, le nommé initié hier, voir la petite image et la petite vidéo des Two Games, ça m'a donné très envie. Du narratif pose d'ouvrier, c'est tout à fait ma cam, je pense, donc... Du coup, je suis très curieuse.
On l'est aussi, oui.
Tu es invitée pour une soirée chez des gens que tu ne connais pas. Tu dois ramener un jeu. Lequel tu prends ?
S'il y a beaucoup de voyages, le Shabada. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup faire du Shabada. Sinon, si c'est juste pour être chill, éventuellement, ce serait Just One. Parce que ça, c'est jouable avec n'importe qui. Même malgré les barrières de langue, ça peut se faire. Donc, peut-être Just One.
Tu avais prévu un méga tournoi de Challenger à 8 personnes, mais tous tes amis t'ont lâché, vous vous retrouvez à 2. Tu sors quel jeu ?
Anabi. J'aime beaucoup la pureté d'Anabi, alors peut-être que ça a été des heures et des heures de travail, j'en ai jamais parlé avec Antoine, mais je trouve qu'il y a ce truc ultra, ultra malin et ultra simple, et en termes de game design, je trouve ça incroyable au niveau épuration.
Quel jeu aurais-tu aimé inventer ?
Welcome to the Moon.
Et enfin, dernière question, à quel jeu aimerais-tu jouer en sortant de cette interview ?
Selon le niveau du joueur en face de moi, si c'est quelqu'un à l'aise, Hero Realms. Sinon, plutôt un Visite Royale, je pense.
On va passer au cœur de l'interview, Delphine, te découvrir un peu plus. Alors, très rapidement, on ne veut pas tout ton CV, mais si tu peux nous donner un petit peu ton parcours professionnel.
Alors, à la base, moi, je viens du monde du livre. J'ai fait toutes mes études dans le monde du livre. Et sortie d'études, c'était très très difficile de trouver du boulot parce qu'on a, en sortie de monde du livre, vu qu'il y a énormément de masters, on est beaucoup à avoir des profils très similaires. Et au bout de 2-3 ans de freelance, je me suis dit un jour à PEL, mais en fait, j'aime vraiment les jeux. Ça faisait un moment déjà que j'avais découvert le jeu moderne. C'est aussi un produit culturel. Ça doit pas être si différent et il y a tellement de créativité. Et du coup, j'ai commencé à mettre le pied dans le jeu de société. Donc, c'était PEL 2017. J'ai commencé à faire un peu d'animation, à me rapprocher un peu du milieu du jeu. Et ensuite, j'ai été embauchée par Yellow en tant que chef de projet. J'y suis restée quelques mois et ensuite, je suis partie chez Gigamic. Et là, je suis restée 3 ans chez Gigamic. Et post-Covid, sur une proposition de Libellude, j'ai rejoint l'équipe Libellude.
Donc tu arrives à allier une passion, le jeu, à ton métier ?
Oui, complètement. Et je m'interdis, On verra si un jour j'y arrive plus. J'essaye toujours, quand je joue, de pas travailler. Quand je découvre un nouveau jeu avec des copains, alors oui, quand je suis vraiment, il y a une cale incroyable à l'intérieur ou une qualité de carte, bien sûr, je regarde avec un œil un peu plus averti. Mais j'essaye de découvrir toujours les jeux avec juste un œil de joueuse. Je veux surtout pas m'habituer et me blaser face à tout ça. Mais oui, je suis joueuse, mais dans toute ma vie. C'est-à-dire que je suis joueuse de jeux vidéo, je suis joueuse de jeux de rôle, je fais de l'impro. Enfin, je faisais, parce qu'en ce moment, j'en fais plus, mais en fait, tout ce qui est ludique et qui tourne autour du jeu, globalement, à part le sport, j'aime tout ce qui touche au jeu et au ludique.
Ok, et donc tu es chef de projet. Alors, chef de projet dans le milieu ludique, ça veut dire quoi ? C'est quoi tes missions ?
C'est un métier très très protéiforme selon les éditeurs, parce qu'un chef de projet chez un éditeur ou chez un autre, ça aura vraiment pas le même rôle. Ça peut aller de vraiment faire tout chez un tout petit, ou ça peut être beaucoup plus cloisonné chez un plus grand éditeur qui va avoir des équipes dédiées pour certains détails, mais ça va du sourcing, rencontrer les auteurs, discuter avec les fabricants, réfléchir parfois à la direction artistique si on a personne de dédié, travailler avec l'illustrateur, réfléchir au matériel. En fait, tout ce qui va faire que de trois bouts de papier et de carton et d'une idée amenée par un auteur qui nous paraît prometteuse, comment on va arriver à un produit fini qui arrive sur les étalages des ludicaires.
Et alors, pourquoi le métier de chef de projet ?
Parce que j'aime toute cette part de développement. Et surtout, en fait, chef de projet, c'est partir d'une promesse et la rendre réelle, finalement. Et c'est vraiment tellement d'émotions de voir les gens qui jouent. Alors, bien sûr, il y a les chiffres, bien sûr, il y a les prix, et c'est incroyable quand on voit des chiffres de vente qui s'envolent, quand on voit des prix qui viennent souligner notre travail, souligner le travail de toute une équipe, des auteurs, des illustrateurs, et c'est génial. Mais en fait, l'un des plus grands bonheurs, et je pense que tous les gens qui travaillent sur un jeu de société le ressentent peut-être, c'est ce moment où on passe dans les allées d'un festival, où on voit un post sur les réseaux sociaux, où on a juste un message de personnes qu'on a perdu de vue depuis longtemps, qui nous indiquent, oui, là, il y a des gens qui sont en train de s'amuser, de partager, d'échanger. J'ai pas un métier où on sauve des vies, j'ai juste un métier où on permet aux gens de passer un bon moment ensemble et savoir qu'un ami a passé un moment avec son enfant sur la maison des souris, savoir qu'il y a des groupes qui s'éclatent sur les allées du festival, sur Acropolis. Finalement, en fait, c'est ça, le plus beau dans ce métier, c'est de se dire qu'on a offert des jolis moments et des rires aux gens.
On te le confirme.
Et donc, c'est toi qui participes aussi au sourcing ? Tu reçois des prototypes que tu essaies ou...
Ouais, la meilleure façon de sourcer, c'est quand même les festivals, parce que voir les gens en face à face, avoir la possibilité de se faire expliquer le jeu, c'est quand même très différent de recevoir une règle par mail, qui est beaucoup plus austère et où il faut réussir à se projeter alors qu'on n'a pas de matériel. Et du coup, l'idéal pour le sourcing, c'est les rencontres, c'est avoir le temps de prendre une demi-heure, une heure avec un auteur qui nous explique le jeu, sortir les éléments, prendre le temps éventuellement de faire un tour, et là on peut avoir des retours qui sont beaucoup plus pertinents et beaucoup plus constructifs.
Et donc justement, tu as travaillé dans trois maisons d'édition qui sont quand même assez importantes dans le milieu du jeu. Tu citais que ton poste était assez protéiforme. C'était vraiment trois métiers différents dans ces trois éditeurs, ou quand même, comme c'est des grosses boîtes, ça ressemble majoritairement?
Alors évidemment, il y a toujours beaucoup de points communs. Après, souvent c'est des lignes qui sont fines. Une tâche va s'arrêter à un endroit chez l'un et va aller un petit peu plus loin chez l'autre, parce que chez l'autre, il n'y a pas cette spécificité. Je dirais que celui qui est le plus différent en structure, c'est peut-être Libellute, parce qu'on a une équipe qui est ultra spécialisée. Donc on a vraiment une directrice artistique, des concept artistes qui sont capables vraiment de concevoir tout le matériel avec une vraie sensibilité et une vraie connaissance des volumes, Enfin, je suis toujours bluffée par leurs documents de R&D. On a des game designers. Donc là, pour le coup, le chef de projet est beaucoup moins touche-à-tout, puisqu'il y a des gens qui sont tellement plus calés dans leurs domaines respectifs, avec qui justement échanger et à qui confier tous ces sujets très précis.
Alors que la structure est plus petite, il me semble.
La structure est un peu plus petite, mais elle est plus spécialisée. Et en fait, elle est plus petite en nombre d'employés, mais en équipe éditoriale, elle est plus grosse. C'est-à-dire que, par exemple, chez Gigamic, il y a beaucoup de commerciaux. Et c'est une vraie force de Gigamic d'avoir une grosse équipe commerciale qui y croit, qui s'implique dans le développement des projets. Là, forcément, chez Libellude, vu qu'on fait partie de tout Asmodée, toute cette partie-là, elle fait, c'est Asmodée en fait. On n'a pas des commerciaux Libellude.
Donc tu t'appuies beaucoup sur l'expertise des gens de l'équipe.
Oui, chez Libellude, c'est une vraie force de pouvoir, de pouvoir apprendre aussi de leurs possibilités et de leur métier.
Quand on est chef de projet comme ça, on gère plusieurs projets en parallèle. Combien de jeux comme ça as-tu? Et à quel stade? On imagine bien que tu peux avoir des jeux en finition alors que d'autres arrivent seulement en proto peut-être.
Généralement, alors encore une fois, ça dépend des endroits. Généralement, ce qui est confortable, c'est d'en avoir 3, 4. Ça dépend entre 2 et 4, on va dire, ça dépend du poids. Effectivement, souvent, il y a un jeu qui va être sur le départ, presque en période de rush. On va avoir un jeu qui sera plus au stade des illustrations peut-être, un autre où on sera en train seulement de peaufiner le game design et commencer les premiers devis, et puis le sourcing à côté. Donc 3, ça permet de vraiment bien faire son travail et de prendre le temps et de sortir la tête de l'eau aussi. Au-dessus, ça devient compliqué, je trouve, en termes de charge, sans bâcler et sans se dire... dans mon expérience, je dis pas qu'il faut pas le faire. En dessous, il y a clairement des moments où c'est creux. Donc ça dépend beaucoup, et ça dépend si on a d'autres missions un peu annexes, par exemple comme le sourcing. Le sourcing, ça prend beaucoup de temps, donc forcément c'est aussi une mission annexe. C'est pas possible de faire 10 jeux plus du sourcing pour une seule personne, ce serait dantesque.
Donc à peu près trois jeux en simultané, et le temps de développement de ces jeux approximatif?
Ça dépend. Après, généralement, je dirais que c'est entre le moment où on voit le jeu et le moment où on va le sortir, il peut y avoir entre 1 et 2 ans, facilement. Parfois plus, quand il y a beaucoup de travail à faire, de développement dessus. Mais sur tout ce temps, il faut aussi compter qu'il y a le temps de production, le temps de transport, le temps que ça arrive et que ce soit réparti aux boutiques, qui compte quasiment... 4 à 6 mois en fonction des lieux de production et en fonction des jeux. Donc en développement pur, on est rarement en dessous d'un an. Mais généralement, au moment où on voit le jeu, on est en train de finir les projets d'avant. On n'est pas encore en train d'avancer dessus. Donc il y a déjà quelques mois qui passent sans trop de nouvelles avant que vraiment on entre dans le sujet.
Comment on choisit une date de sortie alors avec tous ces délais qui s'empilent? On vise un salon? On vise au plus tôt?
Ou un creux dans le calendrier des sorties peut-être aussi?
Ça dépend du jeu. C'est-à-dire que par exemple, un jeu enfant à 25-30 euros, on va viser la fin d'année parce que c'est Noël. Un petit jeu avec un petit format, on va peut-être plutôt viser l'été. Donc plutôt PEL parce que ça se prête à l'amener facilement dans sa valise pour les vacances. Un jeu où on voudrait vraiment toucher la sphère ludique, on va sortir à Essen ou à Cannes, ou en tout cas faire des avant-premières à ces moments-là. Donc oui, en fait, on se fie beaucoup au calendrier civil et au calendrier ludique pour trouver le bon moment. Et après, on regarde, alors, si je veux le sortir là, je compte 4 mois, plus 2 mois de marge, plus le temps de faire les illustrations, plus le game design, il fallait commencer à bosser il y a 2 semaines. Et si jamais ça passe dans les plannings, on part là-dessus, et sinon on se dit, ok, peut-être que c'est pas la bonne date, et on fait des rétro-plannings en partant de la date de sortie, et en remontant petit à petit toutes les étapes pour arriver à avoir un planning qui sera toujours bousculé. J'ai jamais vu un seul projet où le planning est respecté. Mais c'est pas grave, ça donne des guides pour savoir où on va et quand on va faire les choses.
Dans tous les jeux que tu sors, ce n'est que de la première édition ou tu as travaillé aussi sur des localisations françaises?
Non, j'ai bossé que sur de l'édition. J'ai déjà eu plein de collègues qui faisaient de la localisation, mais souvent c'est des métiers un petit peu différents parce que eux, ils ont pour le coup leur interlocuteur, c'est pas un auteur, c'est un éditeur avec qui il faut discuter de l'adaptation pour le public français, de comment est-ce qu'on va faire. Peut-être que tel jeu de mots peut pas passer, peut-être que telle représentation, peut-être que le boîtage est pas adéquat par rapport à ce que le public français a l'habitude de voir. Alors que pour le coup, moi je suis vraiment côté édition en direct avec les auteurs.
Et quel est le lien justement avec les auteurs? Jusqu'où la maison d'édition peut proposer des choses et risque de changer ce qui a été imaginé par l'auteur?
Dans le monde du livre, on parle du couple auteur-éditeur. Pour moi, c'est une expression qui a tout autant de sens dans l'édition. Parce qu'au final, on va le faire main dans la main, ce bébé. Je les appelle souvent mes bébés, mais je le pense très fort. Ça prend tellement de place et tellement de temps dans nos vies. Et il y a des auteurs qui ont moins envie d'être impliqués. Il y a des auteurs qui ont envie d'être impliqués tout le temps et que dans lesquels là, on s'appelle toutes les semaines. Tout dépend vraiment de la relation qu'on arrive à construire humaine. Mais pour moi, le développement d'un jeu, c'est une aventure humaine. Je me vois pas développer un jeu demain sans avoir l'auteur en interne. interaction, sans l'appeler à chaque fois qu'il y a un changement, sans que eux puissent communiquer. Ça fait partie intégrante de ce métier et du bonheur de ce métier. Alors, comme toutes les relations, des fois, il y a des hauts, des bas, on n'est pas d'accord, on s'engueule et après, on se réconcilie en se disant « Ah, oh, quand même, il est bien notre bébé à la fin.
» Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu t'interviewer aujourd'hui, c'est qu'on trouve que les chefs de projet sont un peu les hommes et les femmes de l'ombre sur les jeux. Parce qu'on cite toujours l'auteur a son nom sur la boîte, mais au final, certains chefs de projet ont peut-être travaillé même plus sur le jeu que l'auteur lui-même. Et c'était important pour nous justement de mettre peut-être un peu en lumière ce poste, cette fonction qui est quand même primordiale. Et même certaines fois, je sais que certains chefs de projet ont tellement apporté dans le jeu que parfois leur nom finit par arriver sur certaines boîtes. Alors c'est assez rare, mais certains auteurs comme ça vont proposer presque un co-autorat sur certains chefs de projet à mesure de leur implication dans le projet. Et justement, à travailler comme ça, très proche d'auteurs, sur des jeux, t'as jamais eu envie de te lancer en tant qu'auteur de jeux pur et dur ?
Ça m'a déjà effleuré l'esprit. Après, pour l'instant, je suis plus à l'aise avec le fait de voir une idée, un proto, une base, et d'aller dans le développement et de réfléchir avec l'auteur. Sans doute que ça pourrait être du co-autorat. Pour l'instant, j'ai jamais eu envie de sortir mes ciseaux et de faire un prototype par moi-même. Ça viendra peut-être. Et j'avoue que tant que le sourcing reste une part importante de mon métier, je me l'interdis un peu aussi, peut-être. Si un jour je me fais moins de sourcing, par honnêteté intellectuelle et par éthique, je voudrais pas risquer de reprendre inconsciemment, évidemment, hein, ce serait pas conscient, mais de reprendre inconsciemment une idée où je me serais dit « Ah, oh, cette idée, elle est géniale, mais telle qu'elle, elle peut pas marcher, on pourrait faire ça, ça, ça. » Et je veux pas prendre ce risque je veux pouvoir rester une personne de confiance pour les gens qui montrent leur prototype. Donc, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, mais si un jour je fais moins de sourcing, j'y réfléchirai sans doute, parce que c'est intriguant de passer de l'autre côté de la barrière.
Pour l'instant, tu restes dans l'ombre, donc.
C'est ça.
Tu disais que tu avais pas vu un projet qui se déroulait sans accroc. Tu peux nous citer quelques difficultés qui peuvent arriver, justement, et qui peuvent faire déraper le planning ?
Les difficultés, elles peuvent être multiples. J'ai un souvenir très net du moment où sur la maison des souris, le fabricant nous a dit « Non, mais en fait, ça va pas être possible de faire une lampe avec une pile où on a 30 secondes. » Parce qu'en fait, à la base, on voulait pas mettre de pile, nous. On voulait que ce soit des lampes à manivelle, mais qu'on puisse allumer 30 secondes et qu'ils s'arrêtent au bout de 30 secondes. Et en fait, avec la manivelle, on a exploré ça pendant très longtemps jusqu'à ce que le fabricant nous dise non. Et là, c'était panique à bord. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on repart en arrière ? Les piles, c'est tout un monde de législation et de sécurité à avoir. Panique à bord ! Dans les cas-là, on dort dessus et on revient le lendemain avec des nouvelles idées. Et forcément, ça peut même nous mettre en retard. Dans mon expérience de chef de projet, forcément, il y a quelque chose qui s'est appelé le Covid, où on s'est dit, bah non, tel jeu, on l'annule, ou tel jeu, on va le repousser de 6 mois, parce que là, ça sert à rien de sortir un jeu alors que personne peut aller l'acheter en boutique. Parfois, ça va être que le planning pour les illustrations, finalement, bah on n'arrive pas à avoir les illustrations à temps, on n'arrive pas à être parfaitement satisfait du gameplay, et du coup, on continue d'essayer d'affiner ce gameplay alors qu'on a commencé les illustrations et le matériel, et forcément, tout changement de gameplay peut réimpacter le reste. Donc si on n'arrive pas à parfaitement caler le gameplay, et parfois ça arrive, bah après ça fait des réactions en chaîne. C'est très très variable. Après, c'est toujours formateur, parce qu'une erreur qu'on a fait une fois, on l'oublie plus.
C'est sûr. On parle de difficultés, mais tu as surtout travaillé sur des jeux qui ont gagné des prix. On peut citer Acropolis, qui a gagné l'As d'Or 2023, La Maison des Souris, qui a été nominée à l'As d'Or Enfant 2021, 1, 2, 3 Glisse, qui a été recommandé au Kennerspiel 2023. Alors, je ne sais pas si c'est toi l'ingrédient magique hein, qui fait que ces jeux sont remarquables, mais à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'un jeu va fonctionner ? Quel est le petit ingrédient qui fait qu'on le remarque, justement ?
Je pense qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'ingrédient magique. Il y a de la chance, il y a le bon moment, il y a des équipes qui vont vraiment communiquer en amont et essayer de faire parler du jeu avant que le jeu soit là, mais on n'est jamais sûr. Il y a des excellents jeux qui sortent, qui passent sous le radar. Il y a parfois des jeux peut-être moins bons qui vont trouver leur public, parce que, bah justement, c'est avec des yeux de ludiste aguerri, on va se dire, c'est quoi cette chose ? Alors qu'en fait, non, si ça fédère plein de gens, c'est que c'est un bon jeu. Dans un monde idéal, j'aimerais dire qu'un bon jeu, il va forcément trouver son public et sortir du lot. Dans la réalité, c'est pas le cas. Et tu cites les jeux sur lesquels j'ai travaillé qui ont eu des super reconnaissances. Et forcément, ça touche énormément. Mais j'ai aussi travaillé sur d'autres jeux qui n'ont pas spécialement marché, qui sont passés plus sous les radars. Je pense pas qu'ils étaient moins bons, simplement. moment, bah, ils ont moins trouvé leur public, c'était peut-être pas le bon moment, les bons choix, et c'est... Là-dessus, la part de hasard et de chance, elle est énorme.
Et sur quoi travailles-tu actuellement ?
C'est top secret.
Ah. Wow. On va couper les micros, on revient dans quelques minutes. Et donc, tu es à Cannes pour le travail, un petit peu aussi, ou pour le plaisir ? Est-ce que ton agenda est chargé ? Est-ce qu'on t'a pris au vol dans ton planning ?
J'avais un agenda assez chargé hier et un petit peu ce matin. Après, sur le reste de ce Cannes, je suis moitié en perso, moitié en pro. Ça va être incroyable d'avoir du temps pour jouer, du temps pour tester, pour voir un peu ce qui se fait, parce qu'il y a quand même tellement de richesses ludiques partout sur les tables. C'est très surprenant d'avoir du temps à Cannes.
Parce que côté pro, tu l'as dit, donc tu es chez Libellule en ce moment, et on a la chance d'être en face du stand de Dixit, avec pas mal de tables dessus, donc c'est quand même le produit phare de Libellule. On a vu qu'il y avait Harmony aussi qui est sorti récemment. Tu as pu travailler dessus ou non, c'était...
Pas du tout, c'est ma collègue Anouk qui travaillait dessus. Donc Anouk a travaillé d'ailleurs aussi sur Dixit Disney. Et avec Maëva au pinceau, donc Maëva qui est notre directrice artistique, qui est une illustratrice bien connue et qui là a repris ses pinceaux pour faire un univers qui est absolument incroyable. Petite anecdote, je ne compte pas le nombre de collègues Libellule qui actuellement ont mis une des cartes d'Harmonies en fond d'écran de téléphone. Et c'est... Donc non, j'ai vu les playtests, j'ai participé aux playtests, mais c'était pas du tout moi qui étais en charge d'Harmonies.
On a eu de bons retours, en tout cas, il faut qu'on aille l'essayer, nous.
Je vous le conseille, c'est très chouette, et l'univers graphique vraiment emporte complètement dans un petit univers très, très mignon et très doux.
On a également une question de Elodie, de ProxyJeux, qui est notre spécialiste des illustrations, qui demande si on peut espérer des extensions de Dixit réalisées par des stars de l'illustration du domaine du livre, telles que Rebecca d'Outremer ou Benjamin Lacombe.
Aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait des projets comme ça qui soient prévus. Je sais qu'on réfléchit à d'autres formats d'extension, à d'autres choses. En tout cas, j'en toucherai un mot à mon collègue, on sait jamais.
Note les noms, apparemment, c'est des bons.
Ce sont des illustrateurs du livre, et toi qui viens justement du milieu du livre en plus.
Oui, je vois tout à fait. Je vois tout à fait qui c'est, effectivement.
On va changer de sujet. Delphine, tu es une femme, tu travailles dans le milieu ludique. J'imagine qu'en fonction des gens, le regard peut être différent. Est-ce que tu sens une évolution des esprits par rapport aux femmes dans le milieu ludique ?
Je trouve que par rapport à quand je suis arrivée, on est de plus en plus nombreuses. Et pas uniquement sur des postes traditionnellement féminins, parce qu'à un moment donné, oui, il y avait des femmes, mais en fait, on se rendait compte que c'était quand même souvent sur les mêmes postes. Il y a de plus en plus de gens qui se mobilisent pour parler de ces sujets-là. Juste après, je vais aller à la conférence sur le sujet qui a été organisé sur la diversité dans le monde du jeu.
Super.
Et je fais partie de la commission de l'UEJ, donc l'Union des éditeurs de jeux, qui justement se préoccupe de la diversité. Du coup, je trouve que c'est des questionnements qui sont en cours, qui avancent, comme ils avancent dans la société. Et c'est agréable de les voir avancer, justement. Il y a du boulot. Faut pas se mentir, hein, on va pas baisser les yeux, il y a des choses à faire, mais c'est chouette de pouvoir travailler sur ces sujets-là justement, et de se dire on peut faire avancer les choses pour plus d'équité et pour tout le monde.
Un grand merci de la part de plein de monde. du coup, dans cette commission, alors on va pas faire toute la conférence de tout à l'heure, mais quel est le rôle de la commission et quelles sont les actions concrètes qu'ils peuvent apporter ?
Alors la commission, elle a été créée en 2019, si je dis pas de bêtises, et on était donc un petit groupe. Au début, c'était la commission inclusivité et diversité. Au final, on s'est rendu compte que c'était deux sujets vraiment différents. Donc on s'est scindé. La commission inclusivité a travaillé surtout, bah, par exemple, sur le label Colorblind, qu'on peut voir dans certains jeux, travaille avec AccessiJeux pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut rendre un jeu inclusif pour que le plus de gens possible puissent y jouer. Nous, à la commission diversité, on s'intéresse davantage aux représentations, à la diversité. Alors, du monde ludique, bien sûr, pour l'instant, on a lancé une étude sur les représentations sur les boîtes. On a une super stagiaire qui est en train justement de travailler sur ce sujet pour voir sur l'ensemble du panel des jeux de sortie en 2022, combien y a-t-il de représentations genrées, de représentations ethniques, et parmi ces représentations, est-ce qu'il y a des représentations qui sont négatives ? C'est-à-dire que représenter une femme, si elle est hyper sexualisée, c'est pas... Oui, c'est une femme, mais est-ce que c'est une représentation vraiment intéressante? C'est pas sûr. Représenter une personne de couleur, si c'est systématiquement dans des jeux colonialistes, c'est pareil. Donc voilà, il y a un gros chantier, on essaye de débroussailler toute l'année 2022 pour voir quel est réellement, en termes de statistiques, le nombre de personnages, enfin le pourcentage de personnages qui sont réellement représentés et qui œuvrent à la diversité sur les couvertures. Parce que on sait qu'une couverture de jeu, c'est forcément, hein, c'est son habit de lumière, c'est ce qui fait qu'il va être visible.
Donc vous en êtes vraiment à l'état des lieux, en fait, voir où on en est pour pouvoir avancer.
En fait, ça fait un moment qu'on voulait faire un état des lieux. On a déjà créé quelques petits documents qui ont été diffusés en interne de pourquoi s'intéresser à la diversité, parce qu'il y a des gens pour qui ça coule de source et d'autres pour qui ça coule pas de source. Et c'est normal. C'est des sujets, si on ne sait pas poser ces questions-là, on peut pas être sur tous les sujets en même temps. Du coup, on a diffusé des petits documents en interne de l'Union des éditeurs de jeux pour inviter les gens à y réfléchir en leur montrant les avantages, les inconvénients, en leur montrant certains écueils peut-être à éviter et en leur donnant quelques conseils. On prétend pas du tout avoir la science infuse, on dit pas qu'il faut jamais faire de jeux colonialistes. Simplement, il faut être conscient de ce qu'on fait. C'est-à-dire, si on veut faire un jeu qui s'ancre dans l'histoire, sans présence féminine, peut-être avec une certaine représentation de certaines populations, nous, on n'est pas là pour dire qu'il faut pas le faire. On est simplement là pour le dire. Si vous le faites, soyez conscient de ce que ça signifie pour votre public, pour la population, et soyez conscient également de ce que ça peut représenter. Voilà, nous, on se pose pas en donneur de leçons, simplement en donneur de conseils.
Vous avez des retours, des premiers retours ? Ou justement des demandes complémentaires pour avoir d'autres conseils ?
On a surtout du coup eu cette envie d'aller plus loin. Parce que les éditeurs du coup ont accès aux documents, ils sont pas forcément revenus vers nous au fur et à mesure pour nous dire c'est surtout ça qui nous intéresserait. On leur a fait également tout un document concernant, enfin tout un grand panel de ressources concernant l'écriture inclusive. Et là, j'en profite pour le rappeler, l'écriture inclusive, c'est pas forcément le point médian. Il y a plein de façons de faire de l'écriture inclusive et c'était aussi un sujet pour leur montrer, voilà, si vous voulez vous poser ces questions-là, il y a plein de ressources, il y a plein de façons de le faire. On peut vous y aider, on peut y réfléchir. Après, on est chacun membre de maison d'édition, donc on va pas évidemment faire le travail pour les autres. On a vraiment un rôle consultatif et évidemment on est ouvert si un éditeur qui demande à un moment à la commission, j'ai un doute, est-ce que je peux avoir un coup de main, est-ce que vous avez des conseils, bien sûr qu'on est ouvert à y répondre, c'est tout l'intérêt.
Une belle démarche en tout cas.
Très bien Delphine, on arrive au bout de cette interview. Il y a quelque chose que tu veux rajouter peut-être sur les sorties des jeux sur lesquels tu travailles dans le futur ou sur ton évolution au sein de Libellude ou autre?
Là, le prochain jeu sur lequel je travaille en ce moment, il sortira à la fin d'année, en octobre. Et j'ai vraiment, vraiment hâte. C'était une super expérience. J'ai travaillé avec des personnes géniales sur ce projet. Je pense surtout à Erwin Galliou, qui est notre directrice artistique en freelance sur ce projet et qui fait un travail incroyable. C'est un bonheur de bosser avec elle. Celui-là, je pense que il va entrer au panthéon des aventures humaines qui font qu'on s'attache vraiment à un jeu qu'on sort.
Il a déjà un nom officiel ou pas encore ?
Il a déjà un nom officiel, mais c'est le projet top secret de tout à l'heure.
D'accord.
Vous n'en saurez pas plus.
On surveillera alors les sorties.
Et du coup, après celui-ci, pour l'instant, il n'y aura pas d'autres projets immédiats, parce que dans les prochains mois, il y aura du changement. Certainement, je vais sans doute voler de mes propres ailes.
Ah, bien.
Mais c'est encore un peu tôt, donc on s'en reparle dans quelques mois.
Sans problème.
Eh bien, Delphine, on va te remercier beaucoup pour toute cette découverte de ton métier, de ton parcours, des actions engagées que tu mènes. Merci encore. Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeux.fr. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien.